100% rouge et jaune. 100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN.
Salut à tous, 100% rouge et jaune, on est ensemble pendant 45 minutes. On vous avoue qu'on aurait aimé la repousser, celle-ci un petit peu plus tard dans l'année, cette dernière de bilan de fin de saison. Et oui, malheureusement, la saison est terminée pour le HC Vienne après l'élimination en play-in contre Berne. La coprésidente Stéphanie Meria est notre invitée. On va débriefer les play-in, mais aussi tirer le bilan de cette saison très irrégulière. On passera aussi un coup de fil en fin d'émission à Martin Steinegger, le directeur sportif, pour évoquer les chantiers pour préparer la saison prochaine. Bienvenue dans 100% rouge et jaune.
100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN.
Et on souhaite la bienvenue à notre invitée Stéphanie Meria. Bonjour.
Merci, bonjour à tous et à toutes.
Co-présidente du HCBN, ça va Stéphanie, ou cette élimination à Berne est encore un petit peu difficile à digérer?
On est dans des sentiments partagés parce qu'évidemment, on est content d'avoir quand même accroché ce premier tour de play-in parce que c'était pas forcément gagné. Puis en même temps, ce dernier match, quelle frustration quand même. Mais quelle frustration.
Ouais, il laisse un peu des traces.
Il laisse des vilaines traces parce que je trouve qu'on n'a pas livré ce qu'on attendait de l'équipe, et puis c'est dommage, j'aurais préféré terminer sur quelque chose d'un petit peu plus flamboyant, à l'image de ces quelques derniers matchs de la saison. Quoi.
Et on va débriefer tout ça dans un instant, merci beaucoup d'être avec nous, on est aussi avec Laurent Petita, journaliste au JDJ, salut Laurent.
Salut Jérémy, bonjour Stéphanie, salut à tous.
Frustré un petit peu aussi, ouais.
Ouais, c'était voilà, finir comme ça finalement, j'ai pas bien compris ce non-match, mais voilà, c'est comme ça, tu pouvais pas te qualifier en jouant comme ça, c'est clair.
Et on est avec notre consultant par téléphone aujourd'hui, Christophe Val, l'ancien gardien qui est avec nous. Salut Christophe.
Salut tout le monde.
Toi aussi, t'es un peu au fond du bac ou comment tu l'as vécu?
Non, pas trop. Non, je pense que le HCBN est à sa place cette année. Donc une élimination avec le match retour à Berne, comme on l'a dit tout à l'heure, ce match un peu bizarre quand même. Je pense que ça reflète un peu la saison, donc non, pas trop surpris.
Défaite 4-0 samedi à Berne après l'avoir emporté 4-3 deux jours plus tôt à domicile. Désolé, on va se faire un petit peu mal, mais c'est pour mieux se soigner après avec le replay. Ça avait très bien commencé avant un de ces tournants finalement que le hockey peut nous offrir, parfois heureusement, parfois malheureusement. Retour sur quelques moments forts de ce double derby couperet.
100% rouge et jaune. La rétro.
Salinen encore. Salinen pour Sever devant le but. Doublé de Marc Sever, servi par Salinen. Mais ce môme, il est absolument génial. 3-1 pour le HC Vienne. Quand on a une 46 à 5 contre 3, on n'a pas le droit de le rater. Anderson, qui a pu donner sur Tony Raiola. Allez, le voilà, avec ça on songe. Quel but pour le CP Berne de Romain Löffel. Est-ce qu'ils vont le valider ce but ou est-ce qu'ils vont l'annuler? Le but, il est validé.
Voilà.
Il est validé.
Attention, la pénalité.
Ouais, et pénalité donc contre le HC Vienne. Amanaktel, le tir et le but, c'est pas possible. 4-3. Oh, le CP Berne qui revient complètement dans le coup. Et le tir d'Amanaktel à la bleue, le but, c'est pas possible. Amanaktel encore lui. 2-0 pour le CP Berne, cette fois qui passe devant. Sur l'ensemble des deux matchs, on joue le tout pour le tout du côté du staff biennois. Mais malheureusement, on perd l'engagement. Déjà pour commencer, Victor Heitzel qui sort avec le puck. Heitzel dans le but vide, c'est terminé. 4-0 pour le CP Berne. Sur la première tentative biennoise, on s'est fait punir. Le calice jusqu'à l'Ali. La mine basse de Gaëtan Haas, dégoûté, qui en fracasse sa canne.
100% rouge et jaune.
Quand on réentend le scénario, Stéphanie Meria, est-ce qu'on se dit qu'il y a des regrets? Parce que finalement, on prend 4-0 et puis le score est clair, sans appel.
Moi, je crois que c'est plutôt le match d'avant, le match ici à domicile, donc il faut un petit peu se poser des questions. On mène. Évidemment, il y a ce flou avec ce coach challenge, cette pénalité et tout ça, mais là, je pense qu'on a mal réagi. Il fallait tout de suite essayer de s'y remettre, de retrouver l'énergie qui était au début du match et puis d'essayer de mettre peut-être encore un ou deux goals pour justement avoir ce petit mat-là pour arriver à Berne. Et puis c'est vrai qu'après arriver à Berne, on n'a pas eu d'équipe sur la glace. Donc ça, c'est quelque chose comme tout le monde, moi je le comprends pas. Je comprends pas comment on n'était pas prêt pour un match pareil. Et puis c'est dommage, c'était clair. Bon, au moins il n'y en a pas de regret, ça se joue pas sur un point litigieux à la fin d'une quatrième prolongation. Comme ça au moins c'est clair et net.
100% rouge et jaune. Le débrief.
Christophe, toi aussi, tu as une certaine forme d'incompréhension parce que bah, notamment tu étais au premier match, hein, comme nous, et puis on a vu une alternance de très bons et puis parfois des absences, le sentiment de s'écrouler un peu.
Oui, peut-être ça, mais surtout ce coach challenge, là, on a un peu joué au poker. Je pense que ça a fait mal sous le casque à toute l'équipe. Hein. C'est vrai que ce coach challenge a été malheureusement le pas bienvenu. Ça n'a pas marché, on l'a payé cash et je pense que tout de suite, deux jours après, je pense que les joueurs, ils avaient encore ça dans leur tête. Hein. 4-2, éventuellement, toi, tu peux mettre éventuellement le 5-2. Et c'est une toute autre partie qui se déroule à Berne deux jours après.
Ouais, moi, je trouve, dans un tel match, j'aurais jamais demandé ce coach challenge. Parce que même si des fois, c'est clair, c'est tellement les arbitres, des fois, ils ont une interprétation pardon, de la règle. Et puis, si tu prends trop de risques avec ces deux minutes derrière, comme dit Christophe, il y a 4-2. T'avais encore 5-6 minutes de jeu pour peut-être aller mettre le 5-2 puis reprendre 3 buts d'écart, tandis que là, bah, t'as relancé Berne et puis je pense que c'était vraiment clairement le tournant pour moi. Moi, je l'aurais pas pris, même si c'était 100% clair, parce que c'est toujours un peu à la roulette russe, quoi, finalement.
Moi, j'ai presque quand même envie de défendre un peu le staff là-dessus, parce que déjà, on n'est pas à leur place pour prendre les décisions en une poignée de secondes, et avec toute la pression, tu te dis aussi que tu peux remporter la timbale si tu le fais annuler. Tu te dis, attends, peut-être qu'à 4-1, c'est plié. Et puis, Christian Dubé, Stony nous disent aussi après le match, les images nous donnent raison. En tout cas, quand on voit les images, il y a des bas. Maintenant, elle se joue sur une interprétation. Stéphanie, vous en avez voulu au staff ou voilà, je sais que vous vous immiscez pas trop dans le domaine purement sportif, mais est-ce que pour vous c'était une bêtise de prendre ce coach challenge?
Alors, je suis pas bien placé pour donner mon avis. Maintenant, c'est leur décision, et puis je la respecte tout à fait. Je pense que on a vu sur une action similaire à Zoug, bah, le but il a
le
été
le soir même. D'ailleurs,
le soir même, la décision n'était pas la même. Donc forcément, on peut se poser des questions. Ils ont pris une décision dans l'action. C'est une décision que je respecte tout à fait. Elle n'a pas bien tourné pour nous et puis ça a mené à toute une dégringolade. Maintenant, c'est clair que c'était deux matchs de play-in, mais je crois qu'il ne faut pas arrêter la saison sur ces deux matchs-là. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées pendant la saison que je ne peux clairement pas leur en vouloir pour une décision qui a été prise au moment M dans le feu de l'action.
Après, Laurent, après ce coach challenge, il y a un deuxième match quand même et là, malheureusement, il arrive au pire des moments et ce n'est pas le critiquer que de dire ça, mais c'est peut-être le plus mauvais match de l'ère Christian Dubé.
Ah oui, pour moi, clairement, franchement, on a rien vu de ce qui fonctionnait sous Dubé. Ouais, depuis qu'il est arrivé, que c'était vraiment pas deux passes réussies, c'est powerplay, je sais pas, Rayala, il a fait combien de passes qu'on finit dans le patin d'Anderson, c'était assez incroyable. Peut-être bien sur le match à peut-être deux actions dangereuses, hein. Offensivement c'était le nerf, puis bah, défensivement après voilà, c'était compliqué contre un Berne, on savait, à la maison chez eux, ils ont quand même de la fierté, même si c'est pas leur meilleure saison non plus, ils ont su profiter de ça pour se qualifier, et puis bah, y a vraiment des regrets, parce que je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire, et puis au-delà, bah oui, vu que finalement tu partais quand même avec un but d'avance, donc t'étais pas non plus dos au mur au moment de présenter d'entrer sur la glace dans ce match, quoi. Puis j'ai trouvé vraiment dommage de passer à côté à ce point, quoi.
Stéphanie Méria, quand vous disiez il y a une forme d'incompréhension, c'est parce que on s'attend sur ce genre de match au moins à être à 100%, même à 200%, et puis c'est peut-être ce qu'on n'a pas vu.
Alors moi, ce qui m'a gêné, c'est le manque d'agressivité, tout simplement. Les cinq premières minutes, c'était des minutes d'observation, c'était d'une mollesse, mais c'était dramatique. Enfin, moi, j'étais sur place, j'ai trouvé ça pas du tout juste dans l'attitude, dans l'intention. Peu importe ce qui devait arriver à la fin de ce match, mais moi, je m'attendais à des gens qui s'y mettent à corps perdu, qui mettent de l'énergie, et puis on n'a pas du tout eu ça sur la glace. En revanche, après les cinq premières minutes, Berne, eux, ont su monter le niveau, et particulièrement avec Tristan Chervet, qui était de retour, puis qui avait très très envie de montrer quelque chose à son public.
Qui a fait un
magnifique match. D'ailleurs, des supporters bernois disaient derrière nous, c'est le meilleur match de la saison. Puis je dis, ouais, bah, nous, c'est le plus mauvais. Donc, forcément, ça tombe au mauvais moment pour l'un comme pour l'autre, quoi. Et donc, forcément, quoi. Moi, j'étais déçu de ça. Je peux pas leur en vouloir de pas avoir gagné le play-in parce que c'était de toute façon compliqué, ça, on le savait. Mais je leur en veux, peut-être, sur le moment, en tout cas, peut-être ça va encore passer encore un jour ou deux, mais je leur en veux de pas avoir eu cette agressivité dont on avait besoin sur un match pareil.
Est-ce que pour vous, c'est trop symptomatique de ce qu'on a pu voir aussi tout au long de la saison?
Moi, je crois que c'est symptomatique d'une équipe qui était en manque de confiance. Et puis, dans les moments un peu plus compliqués, quand on a besoin de la confiance, c'est plus compliqué d'aller la trouver quand on ne l'a pas eu toute la saison. Donc voilà, maintenant, il faut travailler là-dessus. On a tout un été, un long été d'ailleurs, très très pénible, pour y travailler. Donc on verra bien.
Christophe, avant de poser la question à Stéphanie Méria, toi, ton regard, si tu devais jeter un bref regard en arrière et un bilan sur l'ensemble de la saison, il y a eu énormément de rebondissements. C'est difficile finalement, hein, de l'analyser en une seule séquence.
Ah oui, il n'y a pas une logique, une très très grande logique sur cette saison. On a bien vu que le HC Bienne régressait après 4 matchs, remontait un petit peu la pente pour 2 matchs, régressait à nouveau. Donc il n'y avait pas de suite logique, c'était difficile à lire depuis les tribunes. Je pense que c'était aussi très très difficile à lire de la part des joueurs. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement d'entraîneur, ça on peut en revenir plus tard. Est-ce que c'était trop tard? Est-ce que c'était déjà la reconduction de son contrat au mois de septembre? Ça fait toujours débat. Pour nous, à l'extérieur, c'était compliqué de comprendre, et je pense aussi dans l'équipe, ça l'était également.
Vous, votre regard, Stéphanie, sur l'ensemble de la saison, il y a quand même eu 2 temps. Hein. Il y a eu un enthousiasme retrouvé entre joueurs et entraîneurs aussi après l'arrivée de Christian Dubé.
Alors clairement, c'est vrai qu'on a misé sur Martin Fallander qui avait fait une première saison qui était compliquée, avec beaucoup de blessés, avec peut-être pas tout un potentiel qui a été déployé. On a décidé au niveau du staff de lui faire confiance et on espérait que l'équipe progresse. Au fur et à mesure, on a bien remarqué que ça fonctionnait pas. Et l'équipe n'a pas progressé, au contraire, je trouve que nos leaders ont même régressé. Moi, j'ai trouvé des Lias Anderson, des Tony Raiola, Gaëtan Haas, inexistants dans beaucoup de matchs, dans beaucoup trop de matchs. Et à bout d'un moment, il fallait se poser la question comment on le fait. Et puis, on est arrivé comme à la solution de devoir changer d'entraîneur, ce qui est toujours assez pénible parce qu'on a aussi envie, en tant que dirigeant, de se dire, bon, dans une entreprise normale, quand ça ne va pas, si tu n'aimes pas le chef, c'est toi qui pars. Dans une équipe de hockey, si tu n'aimes pas le chef, c'est le chef qui part. C'est toujours compliqué, en tant que dirigeant, de se dire... Il est où la partie d'un petit peu de enfantine de dire « ouais, ça me plaît pas, puis j'arrête de jouer, puis je suis un joueur un petit peu capricieux, et puis je montre mon caractère. » Et la partie « non, justement, je suis un joueur professionnel, et puis maintenant, je vais montrer ce que je peux faire, peu importe qui est à la bande. » Et on a eu ce flou assez longtemps dans l'équipe, et finalement, quand on a vraiment vu que ça fonctionnait pas, on a terminé. Puis... on termine sur une note plutôt positive, mais toujours avec cette amertume que l'équipe n'a pas assez progressé. Et puis, il faut quand même garder ce qui est positif. Et ce qui est positif, c'est quand même l'évolution de toute cette jeunesse. Et puis, moi, j'espère que les U21, maintenant, vont encore aller très, très loin dans leur saison, parce que on a un vivier à Bienne qui est quand même exceptionnel. On a une équipe qui touche, une équipe U21 qui touche la finale du doigt et le trophée du doigt depuis quelques années. Et j'espère vraiment qu'on peut continuer à faire ça. Et on le voit. Ça fonctionne, ça amène des joueurs qui ont une importance sur la glace. Et puis je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que même si on... Alors je sais, on l'a déjà dit, redit les dindes, oui, tu n'arrêtes pas de dire ça, on est en reconstruction. Certes, on est en reconstruction. La reconstruction prend peut-être un peu plus de temps que ce qu'on a espéré. Mais le but, il est toujours le même. Le but, c'est toujours le même, c'est d'avoir un noyau dur, un entraîneur qui sait fédérer ce noyau dur. On n'aura jamais des grandes stars, mais on aura une équipe qui peut être une star et puis qui peut arriver à des bons résultats. Et ce chemin-là et cet objectif-là, il existe toujours. Alors, on a peut-être pris une année de plus pour le faire, mais on y travaille toujours très fort et avec beaucoup de conviction.
Oui, et qu'il y a une logique de progression dans le projet aussi, ce qu'on
Exactement.
Espère évidemment pour la saison prochaine. Je vous propose qu'on distribue les étoiles de la saison. D'habitude, Stéphanie, on distribue les étoiles aux meilleurs joueurs des derniers matchs. Là, on va faire sur le global de la saison. Laurent, est-ce que tu veux peut-être commencer par tes tops?
Oui, alors mon top, le premier, je pense que ça va pas surprendre grand monde, mais Fabien Offert, quoi. Top scorer, meilleur compteur de l'équipe, il bat son record de but avec 19. Même certains matchs, lui, justement, je trouve, même si au début, il a toujours un peu de peine à se mettre en route, mais une fois qu'il est en route, il démarre. Et puis, je trouve que lui, justement, même dans les soirées compliquées, c'était un qu'on voyait le plus. Et puis, oui, c'est toujours un immense plaisir de le voir jouer. Puis, il compte jamais ses efforts. Et puis, voilà, pour moi, c'était clairement lui le meilleur joueur. Et derrière, j'ai mis Niklas Blessing, parce que, franchement, à 19 ans, chapeau, ce qu'il livre, il est serein. Il commet vraiment très peu d'erreurs. Hein. J'ai vu beaucoup de matchs cette saison. Peut-être qu'il en fait 2 ou 3, mais derrière, il apprend, il sait comment faire. Je trouve qu'il impressionne par son calme. On oublierait presque justement qu'il a que 19 ans quand on le voit jouer.
J'ai noté aussi la même chose. J'ai mis qu'il pourrait peut-être encore un peu plus progresser sur les pénalités. Il en prend encore quelques-unes, une douzaine, je crois, il en prend sur la saison. Une ou deux qui pourraient être évitées, mais je partage aussi ton avis sur le fait qu'il a porté cette défense en partie. Ouais.
C'est l'indulgence qu'on doit avoir quand on a une équipe de jeunes. C'est qu'on doit les pousser, mais on doit avoir l'humilité de dire bon, ils vont faire des fautes de temps en temps.
C'est vrai.
Je trouve lui, il apprend, hein, parce que je trouve qu'il écoute, il me semble, en tout cas, quand on discute avec lui, on sent qu'il est vraiment là pour comprendre un peu comment il travaille et tout. Puis je trouve que c'est remarquable. Et puis mon dernier top, j'ai trouvé Yannick Stampfli. Hein, on ne parle pas beaucoup de lui finalement. Il est discret et tout. Mais la saison passée, c'était justement avec Martin Filander qui avait déjà beaucoup progressé, je trouvais. Puis cette saison, je trouve qu'il est resté sobre, calme. Et puis il s'est bien posé dans le top 6 de la défense. Et puis il n'a pas hésité sur certains matchs aussi appuyer l'offensive. À lui qui est un ancien attaquant, je trouve que je tenais à mettre en exergue sa belle saison, selon moi, il méritait, quoi.
Tu as d'autres tops par hasard, Christophe? Moi, je partage Offer et Blessing.
J'en ai deux qu'on n'a pas encore parlé. Sévère, pour moi. Ouais. L'année qu'il a fait à Houlton, il a fait, je pense, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Il est venu ici, je ne vais pas dire par la petite porte, quoi, mais il a profité que plusieurs jeunes étaient absents pour se montrer. Il a gardé sa place. Et en fin de saison, pour moi, c'était un joueur vraiment très très intéressant, très très intelligent avec le puck. Il va au combat aussi. Ouais, enfin, c'est un peu un feu follet, mais il a de très belles mains. Donc moi, vraiment, c'est un joueur qui a le mérite d'être soulevé. Et bien sûr, ben on a aussi Noah, Schwander.
Yona, ouais.
Oui, c'est encore la classe biberon, ça. C'est... Mais effectivement, c'est un joueur à surveiller de près, en tout cas le faire le jouer le maximum et en profiter pendant qu'il est encore là.
Ouais, j'ai mis aussi Yona Neuenschwander, moi, en une étoile, parce que, évidemment, vous allez me dire, il y a d'autres attaquants qui ont plus de stats que lui, mais c'est aussi par rapport au statut avec lequel il part dans la saison. Il y a énormément de leaders, comme vous l'avez dit, Stéphanie, qui n'ont pas assumé leur statut, et puis voir que des jeunes à 16 ans, il faut encore une fois le rappeler, il en a 17 maintenant, mais il a joué une grande partie de la saison à 16 ans. Voilà, ce qu'il a fourni, c'était quand même... on n'avait même pas d'attente spécifique, et puis clairement, il est au-delà, et je trouve que Blessing aussi, ça illustre que les jeunes cette saison à Bienne ont fait une bonne saison, ont peut-être pris une part de la charge que les leaders auraient dû prendre.
Alors clairement, puis je pense qu'à ça on doit rajouter absolument, on doit mettre une mention spéciale à Rodwin Dionisio, tant dans le bien que dans le mal, parce que je pense que c'est un des gamins les plus géniaux de la ligue. Sincèrement,
ouais,
il a une vision du match et puis une capacité de faire tourner le match qui est. Mais en même temps, c'est un gamin qui n'a pas de stabilité, j'ai l'impression, dans sa vie personnelle et puis qui se cherche beaucoup. Et ça se voit sur la glace parce qu'il fait des erreurs, il a des coups de sang. D'ailleurs, on a vu Christian Dubé s'asseoir à côté de lui puis lui dire arrête de faire le con parce que sinon tu restes sur la glace, enfin sur le banc.
Sur le banc.
J'ai un peu l'impression de ce qu'on arrivait à décrypter. Et j'ai l'impression que ce jeune feu follet, si on arrive à le canaliser, ça peut devenir quelqu'un d'absolument exceptionnel, quoi.
J'ai mis aussi Sever, je l'avais mis en promesse en vue de l'année prochaine parce qu'on l'a vu une vingtaine de matchs seulement, mais effectivement sur ce qu'on a vu, on a hâte de le voir sur une saison complète avec une préparation aussi avec cette équipe, et puis là il va devoir assumer un nouveau statut aussi l'année prochaine, à confirmer donc. Et en promesse, j'ai mis Christian Dubé parce que j'ai l'impression qu'on en attend tous déjà beaucoup pour l'année prochaine. On sent que ça match avec son vestiaire, ce qui a été humainement quand même difficile, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais au cours de ces trois dernières années. Et puis, on a hâte de voir avec le temps, avec une préparation complète, avec de la mise en place, ce qui va être capable de préparer pour la saison prochaine. Du coup, j'enchaîne un peu avec les flops. J'en ai noté quelques-uns. Je vais aller rapidement sur ceux dont on a déjà parlé, les étrangers et notamment les leaders, avec certains Suisses aussi qui, je trouve... Par rapport à ce qu'on attendait d'eux et leur statut en début de saison, on a pu être déçus. Je pense que Johnny Kneubüller, Yannick Sablatnik, quelques joueurs comme ça, intrinsèquement doivent se dire, on le sait même, hein, qu'ils ne sont pas super satisfaits de leur saison. En défense aussi, ça n'a pas toujours été la sécurité sociale. D'ailleurs, c'est ce que disait Daniel Villard, le CEO du club dans le JDJ Lorrain. Il disait, déçu du rendement des leaders, de certains étrangers évidemment comme des Suisses. Et je voudrais qu'on parle de sa sortie sur Gaëtan Haas, où il égratigne un peu le capitaine. Il dit, j'attends de lui qu'il tire les conséquences de cette saison et qu'il revienne plus fort. Christophe, je ne sais pas si tu as lu cette phrase. Qu'est-ce que ça t'inspire, non, toi?
Par où est passé Gaëtan? Revenir au niveau qu'il a actuellement, ok, il est plus aussi dominant qu'avant, mais on pouvait aussi penser qu'il voulait arrêter le hockey. Donc peut-être c'est ça qu'il voulait dire, que l'année prochaine, s'il retrouve son niveau, s'il retrouve... toutes ses capacités. Je pense que Gaëtan, lui, c'est clair qu'il a envie de jouer, mais je pense que sa santé va passer avant tout, en premier. Donc c'est peut-être ça qu'il voulait parler. Je sais pas, c'est un peu bizarre.
Moi, j'ai trouvé ça sévère quand on voit d'où il revient, parce qu'on n'était pas sûr peut-être qu'il puisse rejouer au hockey, ou en tout cas à très haut niveau en août dernier. Et puis finalement, il fait au cœur de l'automne, il est très bon à un moment. Après, il redisparaît peut-être un petit peu plus de la circulation, mais il finit quand même deuxième compteur suisse de l'équipe. Au plus-minus, il est deuxième également. Stéphanie Méria, vous l'avez cité aussi tout à l'heure, c'est quand même une déception pour vous sur la saison?
Alors moi, c'est une déception... par rapport à son attitude générale, quoi. Il y a eu des moments où on ne l'a pas senti super impliqué, où on ne l'a pas senti... Et je sais qu'il ne va pas aimer s'il entend ça. Quand, et je m'en excuse, Gaëtan, mais on en discutera si tu veux. et effectivement, mais je pense qu'il y a eu des moments qui étaient difficiles où l'équipe manquait de cohésion et puis peut-être qu'on attendait un petit peu plus de sa part de fédérer cette cohésion au sein du vestiaire pour qu'on puisse avancer plus facilement. Mais c'est vrai que c'est facile à dire après coup parce que quand tout va mal et puis c'est difficile de trouver quelqu'un qui va vous mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Là, on n'en a pas eu du tout et c'était compliqué. C'est peut-être aussi ça qui a gêné dans la saison, mais c'est difficile de pointer vraiment du doigt quelque chose, quoi.
Laura, un flop ?
Non, mais si on parle vite, Tarbovic, je m'excuse, des étrangers, effectivement, on en attendait quand même un petit peu plus de la part de chacun, et malheureusement, ils ont été très souvent pas en forme au même moment. Mm-hmm. Donc il y en a un qui arrive à tirer son épingle du jeu un soir, mais les trois autres ou les quatre autres traînaient la patte. Et puis les deux matchs après, c'était plutôt un qui reprenait le dessus et les deux autres, on les voyait de nouveau plus. Donc ça n'a jamais été une ligne constante aussi envers les étrangers.
Ouais, puis moi je trouve par exemple, on dit à Marcus Hjelmegård, on l'engage, il doit amener peut-être quelque chose de différent, un peu notamment sur l'impact physique. Puis samedi, on le voit même pas faire une charge, quoi. C'était quand même assez surprenant, j'étais surpris de ça. Je me disais, ah tiens, dans un match comme ça, on va voir peut-être est-ce qu'il... Quand les Bernois vont venir chercher, est-ce que lui défend un peu ses coéquipiers autour du but ou comme ça quand il y a des... Vu qu'on a vu, hein, dès le début, Bern a essayé de sortir bien du jeu, hein, Chervet sur Dionisio, Sever ou comme ça. Et on se dit, ouais, si peut-être un ou deux de ces gars vont réagir. Ben, non, il n'y avait pas vraiment de réaction. Puis je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Puis au-delà de ça, ben, moi j'ai mis dans mes flops aussi, un peu comme tu disais avant, la défense. Hein, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. Ouais, des fois des lacunes à la relance, et puis des... Côté début, finalement, tout au long de la saison, j'ai trouvé Yannick Bourren puis Miros Rid, des fois, qui était un peu le symbole de ça en difficulté. Même s'il y a eu du mieux dans la foulée du changement de coach, avec un système défensif peut-être un peu plus resserré autour du but d'Aris Etteri, qui faisait que Bien était plus efficace.
Mais on prend plus de 3 buts par match et on est 12e défense de la saison.
Oui. Ouais. Puis après, je trouve, malheureusement, c'est l'histoire, mais il manque clairement un joueur dans le style de Victor Leuf, finalement. Il nous manque vraiment depuis octobre 2024. Un gros gaillard qui impressionne. Hein. Tu commences le match avec Victor Leuf sur la glace en face. Ça te met quand même quelque chose, je pense, pour l'adversaire. Et puis, je pense qu'un profil dans ce genre maintenant, surtout quand on a Rodwin Dionisio qui ressemble un peu à Yannick Radgeb, finalement, dans le style, pour accompagner Dionisio, par exemple, un profil là, ça pourrait être une piste, selon moi, pour un peu stabiliser cette arrière-garde.
Moi, j'ajoute dans les flops, alors je ne sais pas si c'est un flop, mais c'est une incompréhension. J'ai eu du mal à lire clairement la gestion des gardiens durant la saison, parce que finalement, très peu de matchs pour Louis Sianet, notamment dans une période où Aris Etteri était peut-être pas au top de sa forme qu'on connaît. Il est davantage revenu sur la fin de la saison. Finalement, ça a un peu dégoûté Yannette, cette situation qui va probablement partir. Recrue de Victor Östlund, où on se dit on a aussi d'autres jeunes gardiens ex-biennois éparpillés. Est-ce qu'ils auraient pas pu assumer ce rôle de numéro 2 ? Je sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie.
Difficile. Je sais pas exactement ce qui s'est passé avec Louis, Yannette, et puis c'est quelque chose dont j'ai pas discuté du tout. Mais c'est vrai que Harry n'a pas fait sa meilleure saison. Maintenant, devant, il n'avait pas une défense qui lui permettait de faire sa meilleure saison. D'en plus, il faut aussi relativiser les choses, quoi. Je crois que le gardien n'arrivera pas à tout à sauver. Et puis, Louis, je pense que c'est compliqué parce que quand on a une saison comme ça difficile où on veut absolument mettre le gardien dont on pense qu'il fera les meilleures performances, et c'était difficile de lui donner des matchs. Maintenant, j'espère sincèrement, lui, que s'il part de chez nous, il arrivera à retomber quelque part où il pourra avoir des heures de jeu, parce que je crois que c'est ça qui lui manque, tout simplement. C'est des minutes de jeu pour pouvoir se mettre dans toutes les situations possibles et imaginables et puis progresser.
L'heure tourne, je vous propose sans plus tarder qu'on passe déjà à la chronique de Christophe Val.
100% rouge et jaune dans la paillasse du champion.
Christophe, qu'est-ce qu'il y a dans ta paillasse aujourd'hui, la paillasse du champion ?
Ouais, alors Stéphanie a parlé dans une entreprise que des fois, ma foi, c'est le chef qui doit prendre la porte, qui doit casquer, qui doit faire son mea culpa. Si on en revient sur le staff du HCBN qui a engagé quand même, lors de ces 3 dernières années, des entraîneurs un petit peu bizarres, ou en tout cas qui n'ont pas pris le moule du HCBN, je pense que là, alors c'était vraiment entre Petri, Martikainen, et Martin Finlander, c'était vraiment 2 gros flops qui a coûté aussi beaucoup d'argent au HCBN. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être se poser la question, la stratégie, mais aussi les stratèges. Qu'est-ce que font les stratèges ? Et ça, c'est une question que je pose à Stéphanie.
C'est une question qu'on se pose aussi, je vous rassure, hein, parce que effectivement, l'idée c'était avec Matti Kainen, c'était de partir. On savait que Antti Tuomainen allait laisser un vide incommensurable. Donc l'idée de Matti Kainen, c'était de partir sur une philosophie complètement différente pour essayer de casser justement ce vide. Bon, raté, d'accord. On est arrivé après avec un Finlander qui, sur le papier, nous avait fait miroiter quelque chose de bien, qui a eu une mauvaise première saison et qui n'a pas réussi à confirmer sur sa deuxième saison. Puis après, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade où on se disait, mais est-ce que c'est le groupe de joueurs qui n'est pas capable de s'adapter à un entraîneur? Est-ce que c'est l'entraîneur qui n'est pas capable de s'adapter au groupe de joueurs? Et si on avait la solution toute faite et toute cuite, et ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais je ne veux pas tirer à boulet rouge sur le staff, je ne crois pas. Je crois que c'est une période un petit peu compliquée après une période qui allait très très bien et elle dure un peu plus long que ce qu'on aimerait, mais je n'ai pas peur du fait qu'on ne va pas dans la bonne direction à un moment donné ou à un autre, en tout cas sur le moyen terme. Et je n'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur Martin Steinegger ni sur le reste du staff. Je crois qu'il y a eu, malheureusement, pour gagner une finale ou bien pour réussir à aller en finale, il faut que beaucoup de bonnes fées se penchent sur le berceau. Et puis, ben, je crois que ces deux dernières années, on a eu aussi beaucoup de mauvaises fées qui se sont penchées sur le berceau. Et malheureusement, ça a arrivé à où on en est aujourd'hui.
Oui, mais avec Martin Finlander, vous l'avez dit aussi que les résultats ne sont pas arrivés lors de sa première saison. Et on arrive au mois de septembre et on le re-signe 2 ans.
Est-ce que ça, c'est un regret de l'avoir signé trop tôt?
Mais évidemment, après coup, c'est toujours facile de dire « Oh, je regrette ». Mais effectivement, il faut aussi se mettre dans le contexte de l'entraîneur qui dit, ben voilà, moi j'ai un projet pour cette équipe et puis j'aimerais que vous me fassiez confiance et puis j'aimerais pouvoir avancer avec vous. Et il nous propose ce projet qui était séduisant sur le papier. Et on se dit, ben pourquoi pas y aller et puis faire en sorte qu'on lui donne les moyens et puis la confiance pour pouvoir développer ce qu'il a vraiment envie de faire. Maintenant, il n'a pas réussi à le faire. Et ça, on ne pouvait pas le savoir à l'avance.
Aujourd'hui, vous dites, c'est un risque qu'on ne reprendra plus.
Je sais pas. C'est difficile de dire, regardez, un Christian Dubé, il arrive et puis il nous dit, de toute façon, je viens pas que pour la fin de saison. Je viens en tout cas pour une saison en plus, parce que vous avez envie de moi, vous voulez me faire confiance ou pas?
Alors, je pense que lui, on va lui faire confiance. Et si on arrive à Noël, où le HCBN est peut-être sixième du championnat, avec on voit vraiment une évolution dans le jeu, on va le signer en tout cas pour une année. Ça, je peux comprendre.
Je peux pas vous le dire pour le moment. On verra comment ça va évoluer. Mais je me refuse à tout envoyer à la poubelle en bloc, parce que c'est jamais des situations faciles, c'est jamais des décisions qui sont faciles à prendre, ni humainement, ni sportivement, et encore moins économiquement, évidemment. Et c'est vrai que ben, peut-être qu'on n'a pas fait tout juste, mais je ne pense pas qu'on ait fait tout faux non plus. Et j'espère qu'on va réussir maintenant à réinverser la tendance pour aller vers des saisons qui sont un petit peu plus réjouissantes et puis où on finit la saison avec un peu plus de smile dans l'air.
Merci beaucoup Christophe de nous avoir partagé ton avis. Merci et on te retrouve la saison prochaine. Maintenant que tu nous as énervé Stéphanie, on va récupérer les pots cassés.
Il en faut beaucoup plus pour m'énerver.
100% rouge et jaune. L'interview de l'invité.
Stéphanie Méria, on sort de 3 saisons post-finale un peu éprouvantes, comme on l'a dit, mais j'ai envie de dire aussi sur le plan humain, hein, on a parlé de la valse des entraîneurs. Est-ce que vous, en tant que coprésidente, ça vous a aussi éprouvé, ça vous sortait un petit peu fatiguée, lessivée de ces 3 années?
Alors, on en sort. Je pense pas que j'en suis plus fatiguée qu'après la saison des finales. Non, alors vraiment pas. Parce que c'était beaucoup plus éprouvant.
Les nuits étaient longues.
les semaines étaient courtes, les nuits étaient longues. Enfin bref, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? On se remet en question en tant que dirigeant. Parce que nous, notre but, c'est de mettre en place une infrastructure et puis une équipe qui puisse performer. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour que cette équipe puisse performer? Vraiment, j'entends, on sait qu'on a un budget limité. On sait qu'on va pas pouvoir faire des offres à tout et à n'importe qui, évidemment. On est obligé de pouvoir jouer avec ça. Et là, quand ça ne fonctionne pas, puis il y en a un premier qui passe, puis ça ne fonctionne pas, puis un deuxième, on change de nouveau, puis ça ne fonctionne pas. On se pose des questions, évidemment. Et si on ne s'arrêtait pas de se poser des questions, je pense qu'il faudrait juste que je change de job. Mais c'est vrai que, et je sais que parmi les fans, il y en a qui se sont posés la question si on ne devait pas tous changer de job. Mais je les comprends. C'est ça qui remarque à quel point les gens sont émotionnellement impliquée dans cette équipe et je le suis tout autant. Donc oui, je suis fatiguée, mais ce sentiment d'inachevé fait que j'ai envie d'aller plus loin et puis que j'ai envie de repartir vers des saisons avec plus de réussite. Et ça me met quand même un petit peu de mordant à Deniac pour me dire non, mais on ne va pas rester comme ça sur des échecs.
Tu parles des fans. Moi, je trouve ce qui est impressionnant à Bienne, c'est que malgré que c'est difficile, ils restent derrière leur équipe. Il n'y a pas de critiques ou de sifflets comme on peut voir des fois à Lugano, bien d'ambiance chaude. Pensez la saison prochaine, c'est peut-être la dernière avant que ça se lasse, ou bien c'est vraiment, comment tu vois ça?
Je sais pas, mais c'est vrai, je l'ai dit dans plusieurs interviews et interventions, avec plus de 95% d'affluence au stade, on peut vraiment que remercier les fans, les sponsors, les spectateurs de leur fidélité. On voit que, comme dans les plus beaux mariages, ils sont là pour le meilleur, pour le pire, on leur a pas forcément servi le meilleur. Et je peux que tous vous remercier d'être là, de continuer à faire battre vos petits cœurs rouges et jaunes, parce que effectivement c'est un atout et c'est précieux pour un club. Et on se rend bien compte aussi qu'il ne faut pas jouer trop longtemps avec le feu et qu'il va falloir maintenant remontrer un petit peu de hockey spectacle pour que les gens aient envie de venir au match, pas seulement pour voir les potes et puis boire des bières, mais aussi pour voir des beaux matchs.
Pour apprendre à connaître votre tempérament de dirigeante, vous avez dû, cette saison par exemple, est-ce que vous êtes allé une fois ou l'autre dans le vestiaire pousser une gueulante? On vous a vu au gala des donateurs où vous n'hésitez pas quand vous interviewez les joueurs à leur dire, je vous rappelle qu'un match ça dure 60 minutes, sur le ton de l'humour, mais vous prenez aussi des fois cette liberté d'aller franchement dire quelque chose?
Alors, je ne prends jamais cette liberté sans le consentement ni du directeur sportif ni de l'entraîneur, parce que ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'entraîneur. De motiver, de fédérer les troupes. Maintenant, si dans un moment de grand bonheur ou de grande difficulté, on nous demande à Patrick et à moi ou à des autres membres du conseil d'administration d'intervenir, on le fera. Le gala, c'était forcément la petite pique humoristique parce qu'on en avait, on sortait d'une période où on avait vraiment perdu des matchs toujours dans les 3-4 dernières minutes, puis que ça me mettait hors de moi, comme n'importe qui regardait les matchs. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de leur faire une petite pique. Mais effectivement, nous, c'est pas quelque chose qu'on va faire spontanément. Et donc on le fait seulement si on nous demande d'intervenir, parce que je pense qu'il faut laisser les choses à leur place. J'ai aucune compétence sportive et je ne vois pas ma légitimité d'aller leur dire vous jouez comme des pieds, si ce n'est que c'est ma légitimité de supporter, et ça j'ai le droit de le dire du coup.
Puisqu'on parlait du gala, parlons conséquences financières de cette saison. Est-ce que, en parlant des donateurs, vous avez des craintes qu'il y ait des engagements qui diminuent parce que les résultats sportifs ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes? Est-ce que vous avez ce genre de retour ou vous êtes plutôt rassuré par rapport à ça?
Alors je suis rassuré dans un sens parce qu'il y a quand même un grand noyau dur qui reste et qui est fidèle, et puis ça on les remercie. Et ceux qui s'en vont, étonnamment, c'est rarement pour des questions sportives, mais c'est plus pour des questions économiques, politiques, géopolitiques, parce que vous le savez comme moi, la situation, elle fait pas plaisir. En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises, particulièrement dans la région, qui sont en difficulté. Et c'est vrai que je comprends l'entrepreneur qui vient me dire, écoute, je dois mettre quelqu'un loin, je vois pas comment je peux continuer à dépenser de l'argent pour le HCBN. Donc on est vraiment face à cette situation. Et oui, il y a des désistements pour l'année prochaine, peut-être un petit peu plus, mais maintenant, c'est le travail du département marketing qui fait un travail absolument titanesque d'aller revoir chacun d'entre eux, chacun des entreprises et des gens qui sont autour de nous pour leur demander est-ce que tu t'embarques dans cette folle aventure une année de plus avec nous.
Il y a beaucoup de supporters qui disent des fois quand on discute avec eux, ils trouvent que Bienne finalement par rapport à certains transferts que font d'autres clubs, Ambry, Rapperswil ou autres, investit pas forcément beaucoup. Comment tu vois
Alors,
ça,
on n'investit pas beaucoup, on investit ce qu'on a, surtout. Il faut quand même se rappeler qu'au niveau des budgets, on est à peu près 9e dans la Ligue. Donc, si on prend nos 20 millions de budget, les grosses cylindrées ont quasiment le double. Donc, il faut aussi être réaliste avec ce qu'on peut faire. On a déjà un staff qui est limité. On a un bureau du HCBN qui est loin d'être le plus grand en pourcentage par rapport à d'autres bureaux. Donc, on essaye vraiment, on se pose cette question chaque année. Je vous promets, chaque année, quand on prend le budget, on se dit, c'est où qu'on peut réduire les coûts, parce qu'on se pose cette question de manière très ciblée pour pouvoir mettre un maximum d'argent sur la glace. Et après ça, avec cette enveloppe-là, notre direction sportive essaye de faire au mieux. Puis il faut ici voir, c'est qu'il y a quand même des envolées dans les salaires des joueurs, ouais. Que n'importe quel joueur moyen vous coûte quasiment un demi-million maintenant, quoi, et on ne peut pas faire ça 20 fois 28 ou fois 25, quoi.
20 millions, ça sera à peu près encore ça sera dans ces eaux-là aussi cette année, malgré seulement deux matchs de play-in.
Alors,
dans le chiffre d'affaires.
Clairement, on avait compté deux matchs supplémentaires à la maison, donc on n'en a eu qu'un, avec une bonne affluence. Donc, les comptes ne sont pas faits. Il va y avoir un léger déficit, mais qui sera supportable. Donc, moi, je pense que pour l'année prochaine, on va aller avec un budget sensiblement pareil, voire un tout petit peu diminué par rapport justement au sponsoring et aux donateurs qui vont être difficiles à aller encore chercher, parce que forcément, chaque année, c'est une nouvelle bagarre.
Alors, puisqu'on parlait d'argent et de recrutement, il va y avoir un joueur étranger au moins à remplacer, puisque Jere Salinen va quitter le HC Bienne après plusieurs années au club. Évidemment, la question c'est, est-ce que Bienne a les capacités de faire un gros coup, ou non, il faudra être très mesuré aussi sur ce recrutement-là?
Vous poserez la question à Martin Steinegger. On aimerait bien pouvoir faire un gros coup, mais je crois qu'il faut être réaliste, et puis un très gros coup, ça ne va pas être possible. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais ça m'étonnerait beaucoup.
Il y a Lucas Valmark qui, à Fribourg...
Ouais, mais si Lausanne le veut, j'ai un peu peur pour nous.
Bah, oui, c'est... Ouais. Voilà. Mais c'est une des réalités de Bienne, c'est que quasiment le top 6, là, on a du mal à régater financièrement quand il y a un joueur commun qu'on veut.
Absolument, c'est du mal à régater. Maintenant, on peut proposer une approche qui est différente. On peut proposer une approche plus familiale, une approche plus axée sur le développement des jeunes, et puis des joueurs qui sont en fin de carrière, ça peut être quelque chose qui peut les allécher, qui ne sont peut-être pas là pour l'argent, mais pour être un pilier, pour être quelqu'un de formateur, pour être quelqu'un qui arrive à faire progresser le club. Et c'est là-dessus qu'on doit jouer, tout simplement.
Vous nous annoncerez ça à la rentrée, évidemment, mais si on doit se pencher sur objectif de l'année prochaine, ce sera à minima play-in, parce que play-off direct, aujourd'hui, le top 6, on a l'impression que ce sont des monstres qui sont difficiles à aller chercher.
Alors, je crois que le top 6 direct, c'est complètement utopique avec l'image qu'on va pouvoir montrer de l'équipe, mais effectivement, on sera entre la 7e et la 12e place. Je pense que c'est réaliste par rapport à ce qu'on peut faire. Et si la saison se passe bien, et puis qu'on a un petit peu, bah justement, ces bonnes filles qui se penchent sur notre berceau, on peut très bien arriver assez rapidement en play-in.
Je propose qu'on fasse une petite pause musicale maintenant avant d'appeler notamment Martin Steinegger.
100% rouge et jaune dans la playlist de l'invité.
Dans la playlist de l'invité, on a reçu jusqu'ici des joueurs ou même l'entraîneur avec des styles variés. Stéphanie Meria, dans votre playlist, vous avez choisi de nous sortir alors là un tube qui figure en bonne place dans différents classements des meilleures chansons de tous les temps. C'est sorti en 45 tours, ça nous rajeunit pas, en 1972. Mais écoutez, c'est toujours aussi bon. Vous avez reconnu Superstition de Stevie Wonder. Superstitieuse, Stéphanie?
Parfois. Moi, ce que j'aime bien, il dit, c'est quand vous commencez à croire aux choses que vous ne comprenez pas. Et puis, je crois, OK, on fait souvent ça. On croit des choses qu'on ne comprend pas. Donc, on met des chaussettes fétiches, on met des sous-vêtements fétiches. On fait toujours la même routine un soir de match. Moi, j'aime porter des bijoux que j'ai l'impression qu'ils sont chargés de, de bonnes ondes. Donc, ouais, on est superstitieux quand même un peu.
Vous utilisez la musique avant, après les matchs, un peu comme les joueurs ou pas?
Alors, moi, j'utilise la musique comme défouloir. Moi, j'aime chanter toute seule dans ma voiture. J'aime beaucoup hurler. Et ça, c'est un bon défouloir. Donc, suivant, je peux mettre une chanson et puis hurler à tue-tête dans la voiture. Ça défoule.
Du coup, il y a besoin de musique samedi en rentrant de Pibelle, bien.
Ouais, alors, j'étais pas toute seule. Alors, mais après, à la maison, ouais.
Merci beaucoup pour ce petit partage. On va laisser défiler derrière Stevie Wonder parce que ça nous fait plaisir. On va passer au tirage au sort pour le quiz. Il y avait à gagner pour cette dernière de 100% rouge et jaune un porte-carte du HC Bienne. Merci au club d'ailleurs, notamment à Sébastien Meyer s'il nous entend, qui nous fournit les lots. La question c'était: Fabio Hofer a terminé top scorer biennois de la saison, mais avant lui, qui était le dernier joueur suisse du HC Bienne à avoir été top scorer sur une saison régulière?
Wow.
Vous auriez eu la réponse, Stéphanie?
Probablement pas.
Ok. Laurent?
Bah, je l'ai dit tout de suite, Luca Conte.
Ouais, et tu as raison. Tu as raison. Et il y en a beaucoup qui nous ont répondu et qui se sont trompés. On a eu beaucoup de Gaëtan Haas en remontant à la saison 2015-2016, je crois.
Mais je pense que c'était la saison Covid 2021. Du coup,
oui, elle est passée un petit peu inaperçue. Il y avait pas mal de vide dans les patinoires, effectivement. Mais c'était bien Luca Conti, saison 2021, 13 buts, 21 passes. Pas une saison qui est restée dans les annales, c'était celle des play-in ou des pré-play-offs, ça s'appelait à l'époque, perdu contre Rapperswil. Stéphanie, il y a devant vous un bocal avec les réponses, les bonnes réponses. Vous pouvez touiller et puis en ouvrir une des boules et nous dire qui est l'heureux vainqueur du porte-cartes.
Alors, c'est Jérôme Beuchat de Moutier.
Eh ben, dites-moi, Jérôme Beuchat de Moutier, bien connu, commentateur à MySports, un ancien de la maison d'ailleurs. C'est pas truqué, hein. C'est la main innocente, purement innocente de Stéphanie.
Innocente, on sait jamais. Mais sans truquer, en tout cas, ça c'est sûr.
Voilà, on arrive dans la dernière partie de l'émission. C'est Overtime dans un instant avec le directeur sportif du HC Vienne, Martin Steinegger.
100% rouge et jaune. Overtime.
En ligne avec le directeur sportif du HC Vienne, Martin Steinegger. Bonjour Martin.
Bonjour.
On sait que le dernier match a été un petit peu difficile pour toi. Quelques jours après, finalement, quel bilan en ayant un peu refroidi tu arrives à tirer de ce play-in et puis peut-être même plus globalement de la saison?
Ouais, c'est encore dur de faire une bonne analyse et puis c'était encore proche cette défaite. C'est clair, c'était une grande déception ce dernier match. On a pensé qu'on est, on a mieux joué le dernier match et puis on a fait un bon match à la maison contre Berne. Malheureusement, on n'a pas pu profiter plus de notre bon jeu avec seulement un but de plus de Berne. Mais après à Berne, c'était vraiment pas bien. Et puis je pense que les deux matchs, c'était un peu symbole pour toute la saison.
Tu as une piste, toi, en tant qu'ancien joueur, comment c'est possible un tel match de ne pas être finalement très présent tout au long du match, d'avoir une telle absence?
Ah, c'est difficile, je crois, encore une fois. Et puis là, c'était un peu dans toute la saison. À la maison, le match à la maison, on pouvait plus ou moins le finir avec le 53-54. Dans le dernier tiers, on menait 4-1 et on a encore une chance à 53. Là, tu dois marquer le cinquième but et plus ou moins, c'est fini après. Et à Berne, c'était la même chose, le powerplay était vraiment... Là, c'était inexistant. Au moins, on a marqué deux buts à la maison. Mais je crois là, c'est vraiment là qu'on a perdu beaucoup de points de match sur toute la saison, que notre special teams, soit le powerplay, soit le piqué, c'était pas assez bien. Je crois qu'on est 10e en powerplay et puis 11e en piqué, penalty killing.
Sur la saison régulière, en piqué, vous êtes même dernier. 72%.
Même dernier. Ouais.
Il y a des entretiens prévus la semaine prochaine avec les joueurs, c'est ce que nous a dit Daniel Villard, le CEO. Et c'est l'occasion de remettre certaines choses à plat parce qu'il y a des déceptions.
Oui, c'est sûr, c'est carte en arrière, mais il y a aussi un moment qu'on doit tourner la page après et puis carte en avant. On peut pas traîner toujours avec ça, ce qui est passé, mais c'est important qu'on entend aussi de côté les joueurs leur opinion, ça ce qui était bien de leur part et puis ça ce qui était à la fin pas bien. Ouais, c'était plusieurs choses, c'est clair. On a perdu beaucoup de points dans la dernière minute. C'est venu aussi un peu une histoire mentale. Et puis, deuxième chose, c'est les matchs à l'extérieur. C'était pas seulement qu'on a eu des matchs vraiment mauvais, soit à Langnau, soit à Lugano, à Genève, mais on a presque pas gagné des points à l'extérieur. Et puis, c'est aussi un peu de demander aux joueurs leurs sentiments sur ça.
Il y a la période maintenant pour toi, directeur sportif, du recrutement, notamment avec un nouvel étranger à trouver pour la saison prochaine. Quel est le profil? Plutôt un centre, selon ce que nous a dit Christian Dubé. Est-ce que vous avez déjà échangé? Est-ce que vous voulez un joueur qui connaît le championnat ou pas spécialement?
Oui, ça peut être parce qu'il est sur le marché. Après, c'est clair, un centre, si on regarde un peu l'histoire qu'on a eue, avec, spécialement avec le Parle et le Piqué, en boxplay, si t'as un centre qui gagne les boulets, tu peux sortir Buck et puis ça te donne déjà 20-30 secondes moins. Et puis si tu le perds, t'es tout de suite sous pression. Alors c'est un moment clé dans un match. J'ai beaucoup de mémoires que, par exemple, à Zurich, je crois on a perdu 3 fois le face-off là. Et puis à la fin, ils ont marqué un but décisif. Là, c'est un centre qui est important, mais aussi pour le powerplay, un joueur qui peut un peu mieux diriger le powerplay, le jeu, là. ça serait bien pour nous, c'est clair.
On ose te poser la question qu'on a posée déjà à Stéphanie Méria, parce que Christian Dubé, à l'époque, l'a fait venir à Fribourg. Il y a un Lucas Vallemark qui va se libérer. C'est infaisable financièrement? C'est trop cher? Ou alors, pourquoi pas?
Stoney, j'ai rien dit. J'ai dit que c'était toi qui allais répondre. Hein, donc moi, j'ai été super lâche sur le coup. Hein, je te laisse faire.
Elle nous a juste dit que si Lausanne était sur le coup, ça risquait d'être compliqué.
Non, ça ne sert à rien de parler sur des joueurs qui sont sous contrat avec des autres... organisation.
Donc ça veut dire que vous discutez quand même alors?
Pas officiellement.
Non, il n'y a rien à dire. Il est sous contrat avec Cantero. Il y avait des rumeurs. J'ai aussi lu les rumeurs et puis il n'y a pas de commentaire sur ça.
En quelques mots, pour l'année prochaine, il faut s'attendre à d'autres mouvements en recrue. Est-ce que la saison t'a montré qu'il y avait encore d'autres points à améliorer? Et puis au niveau des départs, on pense à des joueurs, oui, qui ont vu un temps de jeu réduit, des jeunes notamment, Jérémy Berti, Nolan Catin. Est-ce qu'il y a déjà des plans, des idées pour tout ça?
Non, pas encore. Ça, on va voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comment le contagion va être pour la saison prochaine. Mais je crois avec Zwerger, on a pu chercher un joueur qui va nous aider offensif. Il est capable de marquer 15 buts plus. Avec Cédric Aschbach, il nous a fait une bonne impression. C'est le seul match qu'il a fait à Davos, mais aussi à l'entraînement. Alors là, on espère vraiment qu'il peut faire le pas direct une ligne plus haute. Et après... Oui, on a des ouvertures sur les étrangers et puis faire le bon choix là. Et puis la dernière chose, c'est de nouveau développer sa meilleure interne. Ça veut dire, si on garde le pas que Marc Sever, Yona, Bless, Gata, qu'ils ont fait cette année, ils vont faire encore une fois un pas en avant l'année prochaine. Et puis pour ça, la base, de mon avis, elle est là. Et puis maintenant... C'est clair, on doit mettre les pièces qui nous aident tout de suite pour la saison prochaine. Mmh. Et puis là, je suis... Si on arrive ça, je suis assez confiant qu'on a une équipe qui peut faire un pas en avant.
Un dernier mot, Stony, sur les U21 élites qui sont en demi-finale des play-offs actuellement, qui prétendent au titre après la finale perdue l'an dernier. Ils ont fini premier de la saison régulière. On devrait voir de nouveaux joueurs, peut-être, dans cette équipe, potentiellement taper à la porte de l'équipe première la saison prochaine?
Non, c'est un peu les mêmes. On était deux fois tout près de gagner le titre avec les U21. L'année d'avant, on était juste 20 minutes loin. L'année passée, il ne manquait pas beaucoup non plus. Puis maintenant, on essaye de nouveau, mais c'est plus ou moins les mêmes joueurs qui étaient là les deux dernières années et puis qu'on a vu déjà avec la première chez nous ou à Olten. Alors là, il n'y a pas beaucoup qui change, non.
Très bien. Merci beaucoup, Martin Steinegger, de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, on te souhaite un beau printemps, un bel été. Bon courage pour tout le chantier qui s'ouvre.
Merci.
Ciao, Stony. Merci beaucoup. Ciao, Stony. Voilà, Stéphanie Méria, on termine avec vous, si vous le permettez, avec quelques questions très rapides du tac au tac, un petit peu humoristique. En 2026, est-ce que vous avez encore des remarques en tant que femme dans le hockey, ou alors c'est un temps qui est définitivement révolu?
C'est révolu.
Ah bah super.
J'ai fait ma place, je crois.
Merci pour cette bonne nouvelle. Quel autre sport vous aimez regarder ou pratiquer pour déconnecter du HCB?
Le ski alpin, fan de Fragno, inconditionnel. Ah.
Avec 5 points de retard à la pause olympique, vous étiez plutôt dans le mood « on va y arriver » ou « ah, c'est mort ».
Je suis toujours dans le mood, on va y arriver.
Quand un match vous a fâché, vous le dites le soir même ou vous attendez un ou deux jours à tête reposée pour dire au vestiaire que franchement, c'était pas terrible?
Je dis pas au vestiaire, mais je gueule tout de suite.
Quand on paye toujours un coach qu'on a limogé, est-ce qu'on est des fois tenté d'appeler un club pour dire « vous voulez pas le prendre, rapidos ?»
Alors je pense qu'on va appeler des agents et des gens pour voir s'il n'y a pas des ouvertures. En plus, je suis persuadé qu'il va trouver.
Est-ce que vous commentez les tenues vestimentaires de Christian Dubé?
J'adore les tenues vestimentaires de Christian Dubé. C'est une icône de mode. Je kiffe.
Quand vous l'avez présenté à Noé Zanotta, le partenaire vestimentaire du HCB, est-ce qu'il y a une connexion mystique qui s'est faite ou pas?
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils se sont déjà vus et je ne sais pas s'il y a eu quelque chose. Mais je veux savoir.
On vous a vu intervieweuse au gala, vous préférez poser les questions ou y répondre ?
Les deux.
Et ça se voit, parce que vous êtes très à l'aise dans les deux exercices.
Merci.
Même si pour les joueurs, ça doit être déstabilisant de se faire interroger par leur présidente.
Ouais, ils ont l'habitude avec le temps maintenant.
C'est la fin de 100% Rouge et Jaune. Merci beaucoup Stéphanie Méria d'avoir accepté l'invitation.
Merci, et puis surtout merci à vous tous, auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, fans de toujours. Je me réjouis de vous retrouver dès l'année prochaine avec le même enthousiasme que vous savez nous donner. Un grand merci à vous.
Et puis merci pour le club aussi, au club pour son aimable collaboration. C'était la DER de la saison, à retrouver en podcast sur le site rjb.ch, onglet émission, puis chronique, y compris sur les plateformes de streaming. Évidemment, les futurs mouvements, le parcours des U21, la préparation de la saison prochaine, on aura aussi l'occasion d'en reparler sur RJB, j'imagine aussi dans le JDJ, Laurent, on va suivre l'épopée des U21.
On va essayer de suivre ça au mieux possible avec les moyens qu'on a, et puis oui, s'il y a une finale, c'est clair, on va en parler, en mettre en exergue 2-3 de ces jeunes ou là de ceux qu'on connaît déjà dans la première équipe.
Et puis un immense merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis d'abord la Stammtisch jusqu'à Noël et puis dans 100% Rouge et Jaune depuis janvier. On se retrouvera la saison prochaine, on vous donnera les infos sur les Facebook et Insta de RJB. Et à jour, merci tout le monde et à la saison prochaine.
À bientôt.
Retrouvez 100% Rouge et Jaune sur les plateformes digitales de RJB et à jour.